16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. Oh, je suis ravi de vous accueillir dans Historiquement vôtre. 2 heures pour vous raconter l'histoire sans se la raconter avec mon complice Mathieu Noël. Oh, bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien chez vous. Vous vous demandez probablement pourquoi je bugle comme un âne. Eh bien, c'est pour vous donner un avant-goût de ce qui nous attend. Car c'est le point commun de nos trois personnages aujourd'hui. Trois fortes têtes, trois sacrés braillards aussi. Henri VIII, Claude François et Jean-Luc Mélenchon. Bienvenue dans notre spécial Les colériques de l'histoire.
La République, c'est moi.
Oui, Jean-Luc, mais le sommaire, c'est Stéphane.
Oui. Dans huit rides. Dans Henri VIII.
Qu'est-ce que se passe dans Henri VIII?
Vous l'avez compris, historiquement vôtre, s'autorise toutes les époques, toutes les histoires, toutes les fantaisies, et ce, avec une formidable brochette de chroniqueurs avec nous. Cet après-midi, la reine des indiscrétions historiques. Chaque jour, elle nous fait découvrir les petits secrets des grands de ce monde. Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors, de qui vous allez nous parler?
Aujourd'hui, je vais vous parler de dents. Parce que être en colère, se mettre en colère, c'est avoir une dent contre quelqu'un. Donc, je vais vous parler de dents, mais pas n'importe lesquelles. Les dents de Louis XIV, qui, lui, vous l'allez voir, n'en avait une plus guère de dents.
Tout le palais était vide. Enfin, je ne parle pas de Versailles, mais de son palais ducal. Alors, bonjour David Castello-Lopez. Bonjour. Vous remontez pour nous aux origines souvent étonnantes d'un objet de notre quotidien, d'une invention, d'une pratique, que sais-je. De quoi s'agit-il aujourd'hui?
Eh bien, aujourd'hui, en fait, comme j'ai un peu l'esprit de contradiction, c'est une émission consacrée aux gens qui gueulent, et moi, je vais faire les origines de la minute de silence.
Ah oui, très bien. Et Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne bouffe, qu'y a-t-il au menu, Olivier, aujourd'hui?
Eh bien, quel point commun entre certains gratins, un croque-monsieur et des bouchées à la reine?
Un point commun entre les gratins.
Le gruyère,
la béchamel.
Ah, vous êtes vraiment pas mal.
Un point pour Clémentine Portier.
Un point déjà.
Un point pour ce qui sera le quiz dans notre spécial Les grands colériques de l'histoire. On aurait pu rajouter un personnage extrêmement sanguin et prompt à s'emporter. Vous, Stéphane, surtout quand vous estimez avoir été lésé dans le quiz.
Je quitte ce plateau.
Stéphane Bern quittera-t-il à nouveau le plateau? Rendez-vous pour Bern to be alive, notre quiz vers 5h-10.
Et oui, si vous trichez, évidemment, je pars. Mais on commence par les origines de David Castello-Lopez. Bienvenue à tous dans Historiquement Vôtre.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement Vôtre.
Comment sont nés les objets qui nous entourent et forment notre quotidien? C'est la question à laquelle répond chaque après-midi pour nous un type assez bizarre, Mathieu. Vous l'avez remarqué?
Oui, la dernière fois que je l'ai croisé, c'était à l'entrée d'Europe 1. Il avait l'air d'hésiter à franchir la porte à tambour. Il était...
tout dur, tout pâle.
Mais il a pris sur lui, et le voilà. David Castello-Lopez, aujourd'hui, vous nous racontez l'origine d'une tradition, d'une convention même, la minute de silence, dans une émission sur les gueulards. Ça va nous faire du bien.
Tout à fait. Alors pour commencer, je vous propose de faire un mini-quiz Burn to be Alive, avec une seule question. Je me souviens très bien, moi, de ma première minute de silence, et j'aimerais que vous deviniez à quelle occasion elle a eu lieu avec un seul indice. C'était en janvier 1996, j'étais en troisième. Quel événement a pu donner lieu à une minute de silence dans un collège 96, parisien en janvier 96?
Le 11 novembre.
Non. Janvier.
Ah, en janvier.
Oui.
Et voilà, c'est déjà bien parti pour Bern to be alive tout à l'heure.
La mort de François Mitterrand.
La mort de François Mitterrand, voilà. Exactement. Et je me souviens super bien d'à quel point c'était impressionnant. C'est-à-dire, on s'est levé dans la classe et on a respecté la minute de silence. Même Alexandre Villavella, qui était quand même un sacré cassos, il a respecté. Et moi, je me suis dit, waouh, on est tous français et on se tait pour penser à un homme auquel on est attaché par les liens de la nation. Et ce lien qu'on a avec lui, c'est aussi un lien entre nous. Ah, c'est génial. Voilà, c'était une sorte d'orgasme républicain. Et comme je suis mégalo, je me suis même dit, j'aimerais trop qu'il y ait une minute de silence quand moi je meurs. Bon, malheureusement, pour ça, il faut être un grand homme, et de mon côté, c'est quand même pas super bien parti. Donc tant pis, c'est pas grave. N'empêche, j'ai quand même envie de savoir d'où ça vient, la minute de silence. D'où vient cette façon si classe de signifier qu'on est triste en groupe? D'où vient en somme cette version laïque de la prière? Eh bien, je suis très honoré et très fier, Mathieu, Stéphane, de vous dire qu'elle vient de mon second pays, le Portugal.
Mais non.
Oui. Vous savez, le Portugal, c'est quand même un pays dont les dernières gloires indiscutables, elles remontent au XVIe siècle. Donc, quand on trouve un truc, on est quand même content.
Vous avez gagné l'euro.
C'est vrai que c'est pas mal.
Ah bah,
c'est plus
récent. Important.
Et maintenant, si vous voulez bien, je vais expliquer. Alors, est-ce que vous savez ce qui s'est passé, plus dur que François Mitterrand, en 1910 au Portugal?
Oui, la révolution.
Oui.
La révolution des On a chassé le roi.
Comment ça s'appelait ce roi?
C'était le frère de Louis XVIII, Manuel II. Et sa mère, la reine Amélie.
qui était né.
Merveilleuse connaissance de l'histoire du Portugal qui me flatte et qui me fait
c'est
plaisir.
C'est pas du Portugal, c'est de tout là où il y a des rois et des reines, dans n'importe quel pays.
Après l'attentat du 1er février 1908, quand.
Oui, sur la place du Congrès. On va se développer comme ça, Stéphane. On aimerait connaître l'origine de la minute de silence.
Oui, il s'est jeté sur son fils pour le protéger. Voilà.
C'est bien, vous connaissez bien l'histoire du Portugal.
Mais il est moitié portugais.
Je sais, mais.
Et donc, comme souvent, donc voilà, révolution, instauration de la République au Portugal. Et comme souvent, il y avait des gens qui soutenaient cette révolution et d'autres pas. Et parmi les gens qui ont été les premiers à soutenir cette révolution, il y a un diplomate brésilien qui s'appelait José Maria da Silva Paranhos Júnior Barão do Rio Branco.
Sauf que
José Maria da Silva Paranhos Júnior Barão do Rio Branco, il avait un problème, c'est que ses reins fonctionnaient mal. Et il fonctionnait tellement mal que le 10 février 1912, malheureusement, il est décédé. Enfin, malheureusement, moi je m'en fous un peu, mais le gouvernement portugais républicain, lui, il était triste. Et trois jours plus tard, sans qu'on sache vraiment comment l'idée est venue, le Sénat portugais a décrété non pas une, mais 10 minutes de silence.
Oh, c'est beaucoup.
10 minutes, je vous imagine.
Surtout au Parlement portugais.
Bah, merci.
Vous laissez entendre que les Portugais sont vraiment volubiles.
Je suis déjà allé au Parlement portugais.
Mais qu'est-ce que vous êtes allé foutre au Parlement portugais?
Je vous raconterai ma vie un jour, ça vous intéresse.
On se pose pas la question pour l'Angleterre, mais d'un coup, c'est une question. Donc le Sénat portugais décrète non pas une, mais 10 minutes de silence. 10 minutes, et vous voyez, c'est trop, quoi. C'est le complexe des petites nations, ça faut toujours qu'on exagère. Et j'imagine même qu'à la fin des 10 minutes, les sénateurs, ils devaient plus l'aimer tant que ça. Je vous aime, Elia de Silva Paranhos Júnior Barão do Rio Branco. Bon, ensuite, le deuxième pays à faire ça, c'était l'Angleterre, 7 ans plus tard, sans qu'on sache s'ils ont copié sur les Portugais. Mais ils ont fait 2 minutes et pas 10. Et c'est en France, le 11 novembre 1922, pour la commémoration de l'armistice.
C'est votre premier.
Première idée,
c'était ça.
Le 11 novembre 1922, qui a eu lieu le premier moment de silence, qui a duré seulement une minute, durée qui est devenue la durée standard de l'hommage dans le monde. Mais vous savez quoi? En fait, les minutes de silence, eh ben, elles durent très rarement une minute.
Mais oui, ça, j'en étais sûr.
Si je le sais qu'elles durent rarement une minute, c'est grâce à un journaliste du Monde qui s'appelle Donald Walter et qui est un ami à moi et que j'ai contacté pour préparer cette chronique. Donald, c'est quelqu'un de très méthodique, hein, borderline psychorigide sur certaines choses, un peu comme moi. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a fait la liste des 83 minutes de silence observées à l'Assemblée nationale entre 2008 et 2017. Et il les a chronométrées une par une.
Oh non.
Bon, déjà, il a remarqué que la fréquence annuelle des minutes de silence avait été multipliée par 3 sur la période. Et surtout, il a fait une moyenne de leur durée réelle. Devinez combien dure en moyenne une minute de silence à l'Assemblée nationale.
30 secondes.
32 plus. Secondes et demie.
Non. Mais
un point pour moi.
Mais c'est merveilleux.
Ah
quand
oui,
même.
C'est écrit sur la fiche.
Ah oui, c'est vrai que c'était écrit. Oui, j'aurais pu éventuellement le lire un peu en avance.
Et il y a même une minute de silence qui n'a duré que 11 secondes pour les victimes du tremblement de terre d'Aquila en 2009.
Ah, c'est
11 secondes, c'est vraiment
secondes,
plus
ça,
du tout une
ça,
minute
c'est
de silence.
Ridicule en secondes. Ouais.
Mais il semble que ce soit un truc assez français parce qu'en Angleterre, à la Chambre des communes, la moyenne, c'est 63 secondes pour la minute de silence. Les Anglais, ils sont plus fiables que nous, c'est comme ça.
Mais je suis content de savoir que ça vient du Portugal.
Pourquoi?
D'abord parce que j'adore le
Portugal. Oui, vous avez un lien particulier avec
mais
ce pays.
Oui,
vous
pouvez
peut-être nous l'expliquer.
J'ai écrit un livre sur la dernière reine de Portugal, voilà, qui s'appelait Dona Amélia, qui était française.
Vous nous rappelez l'éditeur?
Non. Oh, c'est, quelle importance. On n'est pas là pour se mettre en avant nous-mêmes.
Bien sûr que non, surtout pas. On ne fait pas ce métier pour ça. Merci beaucoup, David.
Merci à vous.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chaque après-midi, 2 heures pour découvrir 3 personnages historiques qui n'auraient jamais dû se croiser.
Oui, et cela, s'ils s'étaient croisés, ces fans, ça aurait certainement pas été beau à voir. Notre thème du jour, les colériques de l'histoire. Et on commence par un champion toute catégorie. Il a épousé 6 femmes, en a fait exécuter 2. Il est à l'origine du schisme entre l'Église catholique et l'Angleterre. Faites place au bon roi Henri VIII.
Historiquement vôtre. Le récit.
Oui, et quel roi, cher Mathieu? Rarement un souverain n'aura marqué autant l'histoire de son pays, l'Angleterre, mais aussi celle de l'Europe entière. Que ce soit ses rocambolesques mariages, sa personnalité extravagante ou ses coups de sang, souvent meurtriers, il valait mieux être ami avec Henri VIII.
Ce qui était votre cas, heureusement.
Oui. En 2017, une étude dans un journal scientifique tentait de faire le lien entre les accès de rage d'Henri VIII et ses lésions cérébrales survenues après une lourde chute lors d'un tournoi de joute en 1536.
Qu'est-ce qu'un tournoi de joute, Stéphane ?
C'est-à-dire, c'est une... c'est pas une joute verbale, c'est vous êtes à cheval, vous avez des lances,
ah oui, comme
et vous rentrez avec le haut, mais parfois vous transpercez, vous tombez de cheval.
Et ça fait bobo, comme on dit.
Ça fait bobo. C'est comme ça que notre roi Henri II est mort quand la lance de Montgomery
lui a transpercé l'œil. Mon Dieu, quelle heure.
Mais je ne peux pas vous raconter cette histoire maintenant. Si Henri VIII faisait tuer ses opposants à tour de bras, c'est peut-être parce que ça ne tournait plus très rond dans sa tête. C'est en tout cas une explication plausible que des chercheurs ont développée dans leur étude. Car une chose est certaine, entre le bienveillant Henri VIII, sacré en 1509, succédant à son père Henri VII, fondateur de la célèbre dynastie des Tudors, et le tyran despotique sanguinaire de fin de règne, le grand écart est flagrant. Revenons sur ces 40 années très mouvementées à la tête du royaume d'Angleterre. A priori, rien ne laisse présager que le jeune Henri VIII, né en 1491, devienne un souverain colérique. Quand il monte sur le trône à 17 ans, cet athlète fringant d'1m94 apparaît aux yeux du peuple anglais comme le symbole d'un renouveau.
C'est surtout être le symbole d'un géant, parce qu'à 1m94 à l'époque,
c'est très grand. C'est très, très grand. Et très vite, il va ressembler à une armoire en Henri VIII, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on appelle une armoire un peu costaud. Oui. Non, je plaisante, mais c'est vrai que...
Je ne sais pas, pourquoi pas.
Très instruit, il connaît le latin, le français, l'espagnol, un peu d'italien. Il se passionne pour la chasse, la lutte, ça donne la musique, la poésie, il adore danser. Mais ce qu'il souhaite avant tout, c'est être le monarque le plus puissant de ce début du XVIe siècle. Pourtant, sa soif de pouvoir ne sera jamais vraiment assouvi. 4 ans après son accession au trône, Henri VIII s'engage dans une guerre contre la France. Il veut reprendre ce pays qui, dit-il, lui appartient.
T'es gonflé, lui.
Après 100 jours de siège, son armée s'empare de la ville de Thérouanne. Le jeune roi revient à Londres auréolé de prestige, mais il rapporte dans ses bagages un souvenir dont il se serait peut-être volontiers passé. La petite vérole.
Ah, comment il l'a attrapé, Stéphane ?
Je ne sais pas.
Oh, moi je sais.
On va vous parler par expérience. Alors, 2 ans plus tard, il développe un ulcère à la jambe. Cette plaie qu'il traînera tout au long de sa vie a des effets très néfastes sur son caractère. Lui, qui se destine à un destin hors du commun, vit dans la peur permanente de mourir. Il étudie la médecine, fabrique même ses propres onguents. Rien n'y fait. Henri VIII devient irascible, susceptible, jaloux. L'objet de sa colère ? Un monarque plus jeune qui semble prendre sa place et gagner l'admiration des peuples d'Europe, le roi français François Ier. Henri VIII va même jusqu'à se laisser pousser la barbe pour lui ressembler. François Ier triomphe en Italie, là où Henri VIII, lui, a échoué. La couronne de France n'a jamais été aussi riche, tandis que celle d'Angleterre, après 7 ans de dépenses, perd chaque jour de sa splendeur. Henri VIII est fou de rage et tentera à plusieurs reprises de monter sur le trône de France sans jamais y parvenir, heureusement. Côté vie privée, ce n'est pas beaucoup mieux. Henri VIII se révèle être un mari ingérable, voire dangereux. Il épouse en tout 6 femmes. Toutes subissent ses changements d'humeur, ses colères irrationnelles. Mais 2 particulièrement sont victimes de sa rage. Ben oui, Henri VIII les fait raccourcir. Ah. Anne Boleyn...
J'adore cette expression, les faire raccourcir.
Oui.
C'est un bel euphémisme.
Elles ont perdu la tête. Or, Anne Boleyn, sa 2e femme, est décapitée pour l'avoir trompée. Sa 5e femme, Catherine Howard, est elle aussi très amatrice des plaisirs de la chair. Son infidélité est révélée. Henri VIII exige 1 sentence à la hauteur de l'affront que cette jeune femme de 20 ans lui fait endurer. 2 des amants sont condamnés à être éventrés et découpés vivants.
Sympa.
Le 3e, le plus régulier, à avoir la tête tranchée. Le même sort est réservé à la reine pécheresse.
C'est un petit coup, c'est plus un coup de canif dans le contrat de mariage, mais là c'est un gros coup de hache avec lui, quoi.
Oui. Alors, vous savez, Mathieu, avec le temps, le bel homme prend du poids. Sa santé se dégrade, ses accès de rage se font de plus en plus fréquents, jusqu'à mettre en péril, vous allez le voir, la paix au sein même de son royaume.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Stéphane, vous nous replongez 5 siècles en arrière, de l'autre côté de la Manche, à la cour du roi d'Angleterre. Henri VIII restait célèbre dans l'histoire pour ses accès de colère terrifiants. 2 de ses épouses en ont fait les frais, puisqu'elles ont été tout simplement décapitées pour adultère, on l'a vu. Une époque où on ne faisait pas dans le détail. Mais elles ne sont pas les seules à avoir subi les foudres du roi, apparemment, Stéphane.
Absolument. Henri VIII n'a aucune limite. Son égo est démesuré, il se voit déjà comme un dieu en son royaume. Il consacre une grande partie de son règne à cet objectif. Pour l'atteindre, il entre en guerre contre l'un des hommes les plus influents et importants d'Europe, le pape. Tout commence alors qu'Henri VIII est marié avec sa première femme, Catherine d'Aragon. elle ne lui donne pas l'héritier qu'il attend par-dessus tout. Il part donc voir ailleurs. Cependant, pour pouvoir s'unir à sa nouvelle conquête, Anne Boleyn, oui, celle qui sera décapitée, son mariage avec Catherine d'Aragon doit être annulé par le pape. Refus catégorique. Henri VIII ne supporte pas d'être contrarié. Il prend alors une décision radicale. Le roi se détache de l'Église et se rapproche des thèses luthériennes venues d'Allemagne. Henri VIII ordonne à ses agents royaux de piller les biens ecclésiastiques. Il va même plus loin. Les moines qui refusent de lui prêter allégeance sont jetés dans la tour de Londres. Certains sont pendus, détachés vivants avant qu'on leur ouvre le ventre pour en sortir les intestins. Ça, c'était le truc à la mode.
Mais pourquoi ce luxe de cruauté qui, aujourd'hui, ça paraît vraiment insensé. On peut comprendre l'idée de se débarrasser de cet ennemi qui est déjà radical, mais pourquoi avec cruauté ?
Celui qui subissait, de toute façon, c'était foutu pour lui. Mais c'est pour éclairer les autres.
Oui,
pour faire peur, pour vous donner envie de suivre leur exemple, voyez-vous. Le despote est incontrôlable. Il prononcera cette phrase « Je prouverai la vérité de la prophétie selon laquelle je commencerai mon règne aussi doux qu'un agneau et le terminerai plus féroce qu'un lion. »
On peut dire qu'Henri VIII a vraiment tenu sa promesse de ce côté-là.
Plutôt, oui. Oui, Mathieu. Pour comprendre les dernières années de son règne, il faut se le représenter. Proche des 180 kilos, Henri VIII sombre dans la mélancolie et multiplie les crises de colère. Ses ulcères, son obésité l'handicapent tellement qu'il ne se déplace d'une pièce à l'autre qu'en étant transporté à l'aide d'une chaise. Une machine est même inventée pour lui permettre de gravir les escaliers.
Par un certain monsieur Stana, je crois.
Oui, c'est
fabuleux. Oui, ça monte comme ça, c'est très chic d'ailleurs dans l'intérieur.
Ces journées virent à l'obsessionnel. Il veut laisser un royaume apaisé, quitte paradoxalement à user de violence. Il doit par exemple lutter contre une révolte dans le Yorkshire. Des pèlerins ne supportent plus le sort que l'Angleterre réserve à l'Église. Henri VIII ordonne des exécutions par centaines. Vous les pendrez aux arbres! Vous suspendrez leurs têtes et leurs membres dans toutes les villes pour être un spectacle d'horreur à quiconque tenterait la même chose, disait-il. Certains rebelles, avant d'être pendus, sont éventrés. Leurs entrailles sont brûlées. Et n'allez pas croire qu'être proche du roi vous protège. Non, nombreux sont ceux qui finissent sur l'échafaud par simple décision royale. Ce qui est sûr, c'est qu'Henri VIII Tudor n'est peut-être pas le roi le plus adulé des Anglais, mais il est celui qui a marqué à jamais l'histoire du pays par son tempérament, disons, imprévisible.
Oui, parfaitement imprévisible, c'est ce que je dis aussi quand on me demande comment vous êtes dans la vie.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour mieux connaître encore Henri VIII, mais est-ce possible vu la qualité du récit de Stéphane, je ne sais pas, on accueille quand même une spécialiste. Bonjour Isabelle Fernandez.
Bonjour.
Pour moi, les Tudors, c'est surtout une série télé. Henri VIII, dans l'arbre généalogique des Tudors, il est où sur l'échelle de la folie ? C'était le champion de la famille, on peut le dire, ou il y en a eu d'autres qui était aussi assez intéressant de ce point de vue-là.
Pour revenir sur la série, elle s'intitule effectivement Les Tudors, mais en fait, elle ne s'intéresse qu'à Henri VIII et à ses 6 épouses, alors que la dynastie compte 5 têtes couronnées. Voilà, donc, et Henri VIII est extrêmement bien situé, puisqu'il est le second membre de la dynastie. Il a eu 3 enfants qui vont régner tour à tour sur l'Angleterre. Quant à son égo et au fait qu'il soit au placé, voire un peu perché, son égo était surdimensionné, mais en même temps, est-ce que son règne aurait été aussi mémorable sans ce tempérament hors norme ?
Ah non, c'est sûr, ça fait une bonne série, mais pour ces sujets, c'était peut-être moins rigolé.
Alors, on disait d'Henri VIII qu'il était hanté par l'idée de voir les Tudors chassés du trône, comme son père. Il était primordial pour lui d'avoir un héritier mâle. Pourquoi ? Parce qu'il se sentait illégitime, ou c'est plus compliqué que ça ? Il voulait asseoir définitivement sa dynastie.
Oui, c'est cela. Il voulait définitivement asseoir cette dynastie. Il était obsédé, comme tous les monarques, par sa succession. Il l'était toutefois moins que son père, Henri VII. Aussi, même sans l'existence de loi salique en Angleterre, la tradition voulait qu'un fils succédât au père à la couronne. Henri VIII ne pouvait donc pas avoir la certitude qu'en l'absence d'héritier mâle, une guerre dynastique n'allait pas à sa mort éclater et chasser les Tudors, justement. Il va donc choisir de jouer la carte du moindre mâle, si l'on peut dire, avec un divorce, même si au passage, la raison d'État lui permit de résoudre ses problèmes de couple.
Moi, ce que j'ai pas très bien compris, Isabelle Fernandez, c'est ce changement de personnalité. Il a commencé comme un agneau, il a fini comme un lion fou. Qu'est-ce qui s'est passé au départ ? C'était un monarque qui était plus tolérant, visiblement, et vraiment un monarque vers de la Renaissance. Et qu'est-ce qui s'est passé en lui? Est-ce que c'est ces lésions cérébrales qu'il a eues qui pourraient expliquer ce changement de personnalité?
Alors, je pense qu'il n'y a pas une seule, mais plusieurs explications possibles. Alors, il y a effectivement ce lien que certains chercheurs ont fait entre les crises de colère de plus en plus nombreuses et cette chute de 1536. Mais on peut trouver d'autres explications, toujours au sujet de cette chute. D'autres chercheurs ont davantage mis en avant que les blessures que le roi se fit alors aux jambes aggravèrent ses ulcères. Et comme vous l'avez mentionné dans le récit, le roi se déplaçait avec beaucoup de difficultés, ce qu'il dut avoir beaucoup de mal à accepter, car il avait toujours été très sportif, très athlétique. Et il souffrait en outre énormément physiquement, d'autant qu'avec son grand appétit, il avait pris énormément de poids. Donc ces données médicales et ces douleurs peuvent effectivement expliquer la métamorphose du roi, mais je pense que c'est seulement une explication partielle, car on ne peut pas occulter le contexte politique. Le roi était devenu chef suprême de l'Église, il détenait les pouvoirs temporels et spirituels, il avait réussi à se débarrasser de deux de ses épouses, il avait enfin eu un fils. Tous ces éléments-là n'ont pu que renforcer le sentiment de toute puissance du roi, qui devenait dès lors incapable d'essuyer un refus sans littéralement exploser.
Mmh. Oui, c'est une sorte de dérive. En tout cas, bon, merci Isabelle Fernandez de nous avoir éclairé sur Henri VIII. On peut quand même dire, et vous serez d'accord avec moi, que c'est l'un des artisans du siècle d'or de l'Angleterre. Quand même, son règne a quand même été brillant d'une certaine manière, même s'il était un peu soupolé. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, Isabelle?
Oui, tout à fait. Ce monarque a marqué son pays, il a marqué l'histoire de l'Europe. Il a fait de grandes choses, heureusement, dans le schisme, et il a rendu la liberté à l'Angleterre. Sa cour fut effectivement l'une des plus brillantes d'Europe, avec celle de François Ier. On assista véritablement à l'avènement de la Renaissance en Angleterre, et cet âge d'or devait atteindre son apogée durant le règne de sa fille Élisabeth à partir de 1558.
Voilà. Bah, en tout cas, merci Isabelle Fernandez. Je rappelle le titre de votre livre, Marie Tudor, La souffrance du pouvoir, qui est aux éditions Talendier, qui est réédité en format poche. Et comme le disait très justement Mathieu Noël à propos de tous ces crimes d'État, il disait, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Non mais tu vas la fermer, oui.
Je vous en prie Stéphane, restez poli.
Mais non Mathieu, c'est le thème de notre émission cet après-midi.
Oh, oui,
tu vas la fermer, oui. Rencontre avec les grands colériques de l'histoire. Elle n'est absolument pas sanguine, elle se marre d'ailleurs. Elle n'est qu'amour.
Ah oui, parce que même quand vous voulez faire le grand colérique, ça marche pas.
Non,
oui. Mais
non,
tu vas la fermer, oui.
Tu vas la fermer, ta grande gueule.
Stéphane, vous arrêtez de vous moquer.
Alors, il est trop gentil. J'ai une petite question pour vous, moi.
Oui,
quel est le point commun rarissime entre Jules César, Louis XIV et Bonaparte? Allez.
Ils ont tous
les dents du bonheur.
Pas tout à fait. Tous les trois sont nés avec deux dents. Hein? Alors,
deux dents seulement?
Naître avec deux dents, non?
Oh mon Dieu, je me suis trahi.
Mathieu, il
non seulement je suis nul en histoire,
dents.
Mais je suis nul aussi en biologie. Mon Dieu.
Ah, bon, alors écoutez,
oui,
là,
évidemment.
Des dents de Louis XIV, il va s'agir aujourd'hui. Et alors, autant vous dire que nous connaissons absolument tout de l'état de santé du roi Louis XIV, minute par minute, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et tout ça grâce aux journaux de santé tenus par ses médecins successifs. Et le dernier d'entre eux, Fagon, qui est resté son premier médecin pendant 32 ans, eh bien, il a consigné dans des petits carnets le moindre désordre digestif, la moindre vapeur, le moindre mal de dents du roi Soleil. Alors, Mathieu, vous imaginiez sans doute un roi Soleil, jeune, beau, triomphant, en pleine santé, que nenni, chassé sur le champ. Chassé, oh là, c'est dur à dire.
Chassé sur le champ,
cette chimère. Hein.
Vous prenez vraiment des risques. Hein.
Oui, bon, c'est vrai.
C'est
vrai. Il faut vivre dangereusement. C'est dur. Hein. Bon. Petite vérole, fistule anale, blénorragie, soignée avec une mixture à base d'esprit d'écrevisse, de baume du Pérou et d'essence de fourmi. Boulimie chronique. Scarlatine, urticaire, verrues, furoncle, diabète, hémorroïdes, le tout soigné à coups de lavement et de saignée. Voici la liste non exhaustive des maux dont le grand roi souffrit toute sa vie. Ça, franchement, sexy. Hein. Alors, l'auteur du corps du roi Soleil, Michel Caroli, nous décrit le souverain comme un homme qui vécut la plupart de sa vie dans un état maladif, victime de fréquentes indispositions, tourmenté dès l'âge de 24 ans par des vapeurs qui dureront jusqu'à sa mort, sujet à des éruptions cutanées et aux abcès goutteux à l'âge de 40 ans, épuisé par des fièvres continues et graveleux dans sa vieillesse. Hein. Chapeau, hein, ça fait envie. Alors, mais revenons-en à ses dents. Hein.
Louis XIV... Ce qui vous passionne le plus.
Vous allez voir, Louis XIV a donc de très très mauvaises dents, et ce très jeune, ce qui fait qu'il avale plus qu'il ne mâche. En 1676, il commence à avoir de violentes douleurs dentaires, et 10 ans plus tard, il ne lui restera plus une seule dent à la mâchoire supérieure, et celles du bas sont toutes cariées. Et il a votre âge, à ce... non, il est un peu...
Oui, à chaque fois, vous pensez que j'ai 50 ans. Et bah, à chaque fois,
c'est
vous
la barbe fleurie qui fait cet effet-là. Enfin bref, à 47 ans, autant vous dire qu'il n'a plus une dent sur le râtelier en haut. Hein. Et pendant 30 ans, il devra cacher un sourire édenté derrière une bouche pincée. Les essences de girofle et de thym apaisent ses douleurs quand elles deviennent insupportables. Et le dentiste royal soigne, arrache les chicots noirâtres du roi avec un élévatoire, une invention nouvelle. Comme c'est Louis XIV, il est en or, l'élévatoire. Enfin, ça ne fait pas moins. Mal. Le roi souffre le martyre et bien souvent, les essences destinées à le soulager sont si fortes qu'elles lui brûlent la bouche et le font vomir. Il a de fréquents abcès aux gencives qui enflent ses joues et déforment son visage. Il est beau votre Louis XIV, hein, chéri. Hein.
C'est pas le mien.
Ah ouais, si, c'est beau. Alors, c'est en 1685 que survient l'épreuve la plus épouvantable.
Oui, bon,
il va déjà avoir sa fistule anale, ça va pas être très rigolo, mais en plus, il a un trou dans la mâchoire. Alors ça, c'est votre sujet quand même. Hein. Oui. Il a un trou dans la mâchoire supérieure gauche.
C'est-à-dire qu'en fait, ça communiquait.
Exactement. Toutes les dents ont été arrachées. La mâchoire a éclaté, emportée avec les dents qui étaient cariées, qu'on avait enfin pu arracher, si vous voulez. Alors, Daquin nous décrit ce trou, ce royal trou dans la mâchoire. Toutes les fois que le roi buvait ou se gargarisait et portait l'eau de sa bouche à son nez, d'où elle coulait comme une fontaine. Vive le roi, hein. Et ce mois-là, le roi, évidemment, ne sort quasiment pas de ses appartements car l'énorme cavité a dégénéré en carie de l'os. Bon. Alors, le chirurgien Charles-François Félix, son copain, qui a déjà opéré avec succès sa fistule anale, va appliquer le fer rouge 14 fois de suite sur la gencive du roi. Et il faudra des semaines pour que le souverain puisse recouvrer l'usage de sa bouche. Pauvre roi Soleil, goutteux, refoulant du goulot, pourrissant du palais. Et ben c'est cet homme qu'épouse Madame de Maintenon en 1683. Elle n'était pas dégoûtée.
Ah non, hein. Elle a bien du courage.
Hein. Alors, ce bref aperçu bucolique de l'état dentaire de Louis XIV explique pourquoi 80 ans plus tard, en 1793, lorsque nos aïeux sans culotte ouvriront son cercueil à l'abbaye de Saint-Denis, celui d'entre eux qui parviendra à faire ouvrir la bouche à la momie du roi Soleil n'en retirera à grand-peine que 2 chicots noirâtres pour sa collection de rogatons organiques royaux. Que conclure de tout cela, messieurs ? Bah, écoutez, pas grand-chose, sinon que Louis XIV avait autant de dents en naissant qu'au jour de sa mort.
C'est une belle conclusion, oui. Clémentine.
Merci, Clémentine. Vraiment, vous m'avez donné envie d'avaler mon goûter et de mordre à pleines dents dedans.
Moi, j'ai une petite question. Est-ce que c'était commun à tous les gens de l'époque, finalement, ou lui particulièrement, il avait vraiment un problème de chicot particulier?
Non, les gens avaient des dents en très mauvais état.
Mais on finissait pas tous comme Louis XIV, quand même, à l'époque.
On n'est pas de dentifrice.
Ouais. Rien du tout.
On n'est pas de fluocaril.
On utilisait d'autres choses, des essences du clou de girofle, en effet, l'eau de Botteau qui a été mise au point pour Louis XV et qui existe encore, mais les gens avaient des dents en très mauvais état. Joséphine de Beauharnais ne souriait quasiment jamais. Elle avait les dents complètement gâtées. Mais si, c'est des années plus tard, mais ça c'est sans doute parce qu'elle se faisait vomir à cause de son anorexie. Elle avait les dents en très mauvais état aussi.
On saura vraiment tout avec vous.
Vous savez que l'anorexie, quand vous vomissez, après ça pourrit les dents.
Ça pourrit les dents.
Je vous le dis.
Vous me dites si jamais je suis tenté, vous inquiétez pas.
Moi je suis très tenté, mais c'est pour ça. Personnellement, c'est pour ça que j'ai pas choisi la nourriture.
Vous avez de belles dents.
Mais vous avez remarqué que je suis comme Henri VIII, hein. J'ai pris du poids, mais je reste d'une parfaite gentillesse. Vous voyez comme quoi c'est possible.
C'est possible. Parfaite gentillesse, j'aimerais en être sûr.
On va voir ça pour le quiz.
On va voir ça. Effectivement, restez avec nous, le quiz arrive, on va voir si vous êtes si gentille, Clémentine.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Quand vient l'heure du quiz, ce moment de vérité où les masques tombent et les tartuffes sont exposés, chacun a sa technique. Les uns compulsent frénétiquement l'histoire pour les nuls.
Ah mes aïeux.
Les autres, visiblement plus sûrs de leurs compétences, fredonnent.
Il court, le furet du bois mesdames.
Stéphane, Clémentine, jouons à Burn to be alive. Un quiz, des questions et, si possible, quelques bonnes réponses. S'il vous plaît, faites un effort. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. En 1961, au musée d'art de New York, pendant 47 jours, il était écrit sous un tableau que c'était le bateau d'Henri Matisse, alors que c'était en fait Plage et bateau de Van Gogh, et qu'en plus c'était une copie, vrai ou faux ?
Incroyable.
C'est tellement incroyable
que vous avez envie de dire...
Je pense que c'est vrai.
C'est une mauvaise réponse de Stéphane, mais c'est un piège, puisqu'effectivement il y a eu une bourde. Le tableau, le bateau d'Henri Matisse a bien été exposé 47 jours, mais à l'envers.
Ah, c'est drôle.
C'est trompé de sens. C'est vrai, parfois, hein, il sort d'un tableau, on ne sait pas trop. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Saint-Marin est, depuis 1463, la plus ancienne république du monde. Oui, ouais. Enclave à l'intérieur de l'Italie, le pays n'appartient pas à l'Union européenne, mais à l'ONU. Sa devise, touche-moi si tu l'oses. Vrai ou faux ?
Oh, je pense que ça pourrait être vrai. Je crois que Saint-Marin, c'est la dernière principauté ou le dernier pays à avoir pu anoblir. Et qu'il y a un certain nombre de Français qui ont été anoblis par Saint-Marin.
Ah, ça peut intéresser Stéphane, ça.
Moi, oui, c'est ça.
Non, merci. Je
voulais
devenir très fier de ma
reçue. Vicomte. Moi, je dirais oui, c'est vrai.
Vous dites oui, on écoute la réponse.
Vous avez perdu.
Je vous ai demandé de me donner au moins une bonne réponse.
Touche-moi si tu l'oses, c'est pas
vrai.
Mal.
Alors, c'est une devise, mais c'est la devise d'Andorre.
Oh,
et tout le reste
voilà,
est vrai sur Saint-Marin.
Oh, oui. Bon.
Stéphane, vous reprenez du poil de la bête. Enfin, en tout cas, vous reprenez la possibilité
du temps,
de prendre
perdu.
La main. Oui, non, mais là, il fait un petit sourire.
Il reprend du poil de la bête, il a perdu.
Oui, mais il est content de voir que vous avez perdu
oui.
aussi.
Oui.
Les Smarties, vous voyez ce que c'est les Smarties ?
Oui, très bien.
À l'origine, ont été inventés pour démontrer que, quelle que soit notre couleur, on a tous le même goût. Vrai ou faux ?
Non.
Non, mais les questions...
Vous répondez faux.
Oui.
Vous avez...
C'est peut-être la question la plus historique que nous ayons eue dans ce quiz. Les billes de chocolat sont enrobées de sirop de sucre pour empêcher le chocolat de fondre. En 1941, les États-Unis commencent à en produire. L'armée américaine est le premier client pour que les soldats emportent des douceurs dans les zones chaudes du globe.
Ah ben ça fond,
mais ça fond.
Eh bien non, elles sont entourées d'une fine pellicule de sucre. Ça ne fond pas, les Smarties. Ça fond beaucoup plus lentement, en tout cas, que si le chocolat était
seul. Fond dans la bouche, pas dans la main.
Ah, oh Clémentine.
Bah, c'était ça le slogan, non ?
Tout à fait, mais c'est aussi le slogan des productions d'Orcel à une époque.
Oh.
Clémentine, question numéro 4. En France, est-ce que la duchesse du Berry, qu'on appelle aussi Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, aurait pu recevoir une carte postale ? Stéphane fait oui de la tête. Elle,
oui,
après, est-ce un indice
oui,
ou
je,
pas
je
ne sais
pense,
pas.
Je pense que oui, elle aurait pu recevoir une carte postale. Ça va être à un an près. Voilà, bref, bon, allez-y.
Vous avez... perdu.
Oh non, Clémentine, elle a perdu. Non, elle est morte en avril 1870 et la première carte postale en France a été envoyée
en
le
mai,
14
c'est ça
septembre de la même année. Les premières cartes
oh
postales
non,
françaises.
Vous pourriez pas me donner la question sur les Smarties un peu là, c'est pas juste. Hein.
Première carte postale.
Ah oui, je pensais que c'était la. Oui. Je pensais que c'est la même année.
Ben oui, mais c'est la même année. Les premières cartes postales ont été envoyées pendant la guerre de 1870.
Oui.
Qui l'emporte d'après vous ? Est-ce que vous avez su calculer ?
Bah c'est Stéphane qui a gagné
aujourd'hui. C'est Stéphane qui remporte le quiz.
Zut.
Et ça, c'est de plus en plus fréquent, Stéphane.
Hein,
vous reprenez du poil de la bête ces derniers temps.
Oui, exactement.
C'est très joli.
En plus, il est content.
Il est vraiment content.
Ah non, mais c'est ça qui est génial.
Le mec, il gagne
les Smarties. Il a répondu sur les Smarties et puis là, il jubile.
Je vous dis. Je feins évidemment de cette satisfaction.
Tu feins,
mais on est d'accord, c'est pas vraiment un quiz d'histoire.
Oui, non, mais vous jubilez quand même, oui. C'est ça, c'est trop fort. Hein.
Ah, il est pas
moi,
monsieur...
qui comptais demander qu'on appelle ce quiz Clem to be alive, ce serait mieux que Bern.
Merci en tout cas, Clémentine.
Oui, mais ça rappelle moins la chanson.
Oui, ça aurait bien, moins bien marché, mais si vous voulez, on trouvera un truc avec Clem. On cherchera un jeu de mots.
h 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous commencez à connaître l'équation rieuse d'Historiquement vôtre. Chaque après-midi, trois personnages qu'a priori rien ne relie et qui pourtant ont un point commun. Aujourd'hui, Stéphane, on prend notre courage à deux mains et on part à la rencontre des grands colériques de l'histoire. Henri VIII, Claude François, Jean-Luc Mélenchon.
Puis il y avait aussi Guy Dux.
Oui, il y avait Guy Dux, mais on n'a pas le temps de tous les faire, Stéphane, hein, sinon on n'a pas fini. Hein.
Non, vous avez raison. On va se concentrer sur nos personnages du jour. On se répartit le travail, comme d'habitude.
Oui.
Je fais les morts, vous faites les vivants.
Bien sûr Stéphane, à vous Claude François, à moi Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc qui, m'a-t-on rapporté, adore Historiquement Vôtre.
Ce que vous êtes en train de faire est une honte.
Ah, on m'aura mal rapporté alors.
Au programme de cette deuxième heure également Mathieu, deux rendez-vous très importants. Ah. D'abord, celui d'Olivier Pouls, notre cordon bleu de l'histoire qui nous fait découvrir l'origine d'une recette dans Papy de la Nation. Et aujourd'hui, la béchamel.
Dans Monsieur Béchamel que vous avez bien connu Stéphane.
Bien sûr. Et puis surtout, le mien. Bah oui, chaque jour, je vous fais découvrir l'origine d'un mot, d'une expression. Aujourd'hui, tomber des nues. Vous avez une idée d'où ça vient, Mathieu ?
Aucun rapport avec le naturisme ?
Oui, je vais vous surprendre.
Si
vous
surprenez-moi, Stéphane.
Oui, enfin, il faut d'abord que vous soyez patient. Vous le saurez aux alentours de 6h moins 10.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
C'était ce que Stéphane appelait un perfectionniste et les journalistes qui l'interviewaient un... Oui, Claude François n'était pas facile.
La poésie, c'est plutôt Brassens, non ?
Si tu m'emmerdes avec Brassens, toi. Hein ? Votre moustache qui ferait mes couilles avec nouilles. J'ai perdu ma couille au fond du ravin. Moi aussi, je peux le faire, ça. Hein ?
Claude, derrière Clo-Clo, voici le portrait par Stéphane Bern de notre deuxième grand colérique du jour.
Historiquement vôtre. Le récit.
J'avais un marteau. Je cognerai le jour. Je cognerai la nuit.
Et il cognerait le jour, il cognerait la nuit. Heureusement, il n'a jamais trouvé son marteau, sinon ça aurait pu faire mal, Stéphane.
Clo-Clo, l'idole des yéyés, celui qui lançait sa chemise à la fin de ses concerts et assistait à des centaines d'évanouissements dans le public, était un grand fan de boxe. Alors, des uppercuts, au moins verbaux, il en a distribué quelques-uns en 16 ans de carrière. Le 5 novembre 1974, le Canard Enchaîné publie en exclusivité une note de service de Claude François. Elle est adressée à ses musiciens, danseuses et techniciens. Le journal satirique accuse le chanteur alors en pleine gloire de malmener son personnel. Le titre fait l'effet d'une bombe. Les coups du père François. Les lecteurs et les Français en général s'interrogent. Et si derrière les chorégraphies entraînantes et le sourire chaleureux du chanteur, se cachait en réalité un patron tyrannique. L'article est rapidement oublié, mais depuis la mort de la star, il y a 42 ans, les langues se délient. Et ces fameuses notes de service que Clo-Clo avait pour habitude de rédiger ressortent. Le 30 janvier 1978, par exemple, il est agacé car sa femme de ménage oublie de lui cirer les chaussures le matin. Oh. Il est obligé de le faire à sa place.
C'est vrai que c'est scandaleux, c'est agaçant ça.
Sa secrétaire particulière est tensée car elle range mal ses t-shirts dans la penderie. Il passe trop de temps à chercher ses affaires. Il met en garde son habilleuse. Allez-y.
Je viens de trouver une paire de chaussures bleues sans forme. Je suis monstrueusement inquiet quant à ce problème. J'en ai marre. Est-ce clair ? Si je vois une chaussure où il manque une forme, je te tue et je te vide.
Je te tue et je te vide. Henri VIII n'aurait pas mieux dit. Ces mots d'une extrême violence que Claude François prend le soin de taper à la machine.
C'est ça qui est dingue, il le tape en plus.
Sur des feuilles en tête portant le logo de son entreprise, voilà. Le groupe Claude François, seront confirmés par son habilleuse. Plus que du harcèlement moral, une menace de mort donc. Pourtant, ses anciens collaborateurs, en général, dédramatisent la situation. Ils expliquent que ses coups de sang sont fréquents, mais que le chanteur n'en pense pas un mot. Ce qui est certain, c'est que tout le monde en prend pour son grade. Même les chouchoutes du public, ces danseuses, les fameuses Claudettes. Un jour, deux d'entre elles sont accusées d'avoir perdu des cintres. Le chanteur demande de retenir 10 francs sur leur prochain cachet. Comme cela, elles feront plus attention. Et toutes les choses qu'elles perdront, eh ben, elles les rembourseront.
C'est pas con, hein.
Claude François a l'œil sur tout. On parle souvent de sa maniaquerie, son perfectionnisme qui lui valent cette réputation de caractériel. Alors imaginez quand la troupe part tous les mois de juillet et août pour les fameuses tournées d'été. H24 avec la star. Quand Claude François entre sur scène, il détecte en quelques secondes le moindre problème. Si ses musiciens ont mal ajusté leur costume ou ne portent pas le bon vêtement par exemple, une fois le spectacle terminé, le fautif écope en moyenne d'une amende de 50 francs. Et le chanteur tire à vue. Un faux contact et Claude François envoie son micro avec rage au visage du sonorisateur. Une autre fois, en concert à Martigues, devant 6000 personnes, il ne reste plus de temps numéro 2, l'unique maquillage utilisé par Claude François. Il refuse de monter sur scène. On lui apporte un équivalent trouvé chez les Claudettes. Il hurle que c'est un produit bas de gamme qui lui donnera des boutons. Son secrétaire n'a pas le choix. Il part dans un camion de pompiers, sirène hurlante, en quête du fond de teint au cœur du scandale. mais c'est dimanche et tout est fermé. Il fait du porte-à-porte et au bout de 45 minutes, il trouve le maquillage tant espéré. Claude François est satisfait. Il accepte enfin d'honorer son public de sa présence.
Rassurez-moi Stéphane, vous allez aussi nous honorer de votre présence après la pause quand même.
Évidemment que je serai là Mathieu, d'autant que vous allez découvrir que côté vie privée, Claude François, bah, c'est pas vraiment lundi au soleil, mais plutôt le téléphone pleure et hurle.
Très très joli ça Stéphane.
16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Historiquement vôtre continue et dans la famille des colériques, je demande Claude François, bonne pioche. Hein. Stéphane, vous nous racontez que bien avant de se prendre le courant, Claude François était déjà survolté.
Oui, Claude François est avant tout un chanteur populaire, adulé par toute une génération et respecté par ses proches. Mais parfois c'est vrai et confirmé par tous ceux qui l'ont côtoyé de près, par égocentrisme, par jalousie, il peut se montrer insupportable, irrespectueux, voire dangereux. Et ces histoires d'amour n'échappent pas à la règle. France Gall, avec qui il entretient une relation pendant 3 ans, n'est pas épargnée, au contraire. Elle fait sa connaissance alors qu'elle a à peine 17 ans et lui 25. La carrière de la chanteuse décolle et Claude François est extrêmement jaloux. En 1965, il apprend que France Gall aurait une liaison avec un chanteur italien. Le sang du chanteur ne fait qu'un tour. Une dispute violente éclate chez lui dans le 16e arrondissement de Paris. Claude François est incontrôlable. D'après son secrétaire de l'époque, il s'empare d'un pic-cierge et le lance en direction du visage de France Gall.
Que foutait un pic-cierge chez Claude François? Ça, c'est une question qui demandé. Peut se poser quand même.
Vite, j'attrape le premier truc sous ma main. Un pic-cierge.
Sans doute on priait à sa gloire. Et elle l'évite, mais comprend qu'elle encourt de sérieux risques et préfère s'enfuir. Il la poursuit dans la rue, au volant de sa Mustang, slalom entre les piquets du marché et tente de la renverser, au moins de lui faire peur. Elle réussit à échapper in extremis à la fureur de son compagnon. Mais France Gall ne parvient pas à lui dire adieu. La même année, savez-vous, elle remporte le concours de l'Eurovision avec Poupée de cire, Poupée de son.
Que vous allez nous interpréter maintenant à cappella.
Mais elle m'a raconté cette histoire. Hein. J'ai fait la dernière émission de France Gall à la télévision et je vous jure qu'elle m'a raconté cette histoire.
Avant de
recevoir son prix, France Gall l'appelle, heureuse de lui annoncer la bonne nouvelle. Claude François, jaloux que sa fiancée devienne plus célèbre que lui, répond froidement « Tu as peut-être gagné, mais tu m'as perdu. »
Il était chic en plus.
Amoureuse, France Gall quitte Naples dans la nuit et arrive au domicile du chanteur qui refuse de lui ouvrir la porte. En pleurs, elle reste allongée devant la porte pendant 4 heures. Il lui ouvre finalement et le couple se réconcilie. Mais vous le savez, ils se sépareront définitivement en 1967. Cette jalousie ronge Claude François dans la plupart de ses histoires d'amour. Plus tard, il interdit par exemple à sa femme Isabelle, la mère de ses 2 fils, de poursuivre sa carrière de mannequin. Il brûle son bouc, l'assigne à résidence et lui demande de s'occuper de la maison. Une simple goutte d'eau sur une vitre ou une assiette fêlée peut rendre le chanteur hystérique.
Il n'y a pas que l'assiette qui est fêlée visiblement.
Claude François se consacre uniquement à son métier. Être adulé est sa priorité. Il est très exigeant avec lui-même, mais aussi avec son public.
C'est-à-dire...
Les spectateurs peuvent eux aussi être victimes des colères de Claude François. Oui, si le chanteur estime qu'ils ne sont pas à la hauteur de sa prestation,
mais comment
qu'ils n'applaudissent pas assez lors des concerts, il les punit à sa façon. La star vexée passe une grande partie du spectacle à chanter dos à son public.
Mais non.
Accélérant le rythme des chansons, débitant ses paroles, vous savez, à grand V pour raccourcir le concert. Lui qui déborde habituellement d'énergie esquisse uniquement quelques pas de danse. Ne comptez pas sur lui non plus pour un rappel, hein, une chanson supplémentaire ou un simple au revoir. Claude François sort de scène sans même saluer les spectateurs venus parfois de très loin pour assister au concert. Et pourtant, malgré tout cela, Claude François, plus de 40 ans après sa mort, suscite toujours autant d'émotions et d'amour, peut-être simplement parce que ses chansons sont...
Il faut le révéler à nos auditeurs, c'est, Claude François, c'est un de vos premiers disques, c'est même votre premier disque.
Oui, le premier disque que j'ai acheté.
Alors, racontez-nous comment
l'école,
ça s'est passé.
J'étais à l'école primaire.
Oh, vous êtes
j'ai
tout
acheté.
Petit.
J'étais tout petit, c'est mon premier disque vraiment. Avec mes économies, non, j'ai mon cochon.
le rire, cochon de Stéphane Bern. Ça, c'est un objet qui devrait être cher aujourd'hui.
J'ai acheté le.
C'était quoi
le lundi au soleil, je crois. J'ai le lundi au soleil.
Le lundi au soleil.
Toujours,
et vous l'écoutiez 40... comme ça sur votre gramophone, j'imagine.
Non, c'était un manche-disque.
Ah, oui, un manche-disque. Un pick-up, bien sûr, toute une époque.
Toute une époque.
Merci pour ce beau récit, Stéphane.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Alors, on vient de l'entendre, à l'inverse du cochon, tout n'est pas bon, hein, dans Claude François. Si on aime et on danse toujours souvent sous, hein, important de le rappeler sur ses chansons, on parle aujourd'hui du chanteur colérique avec notre invité, Laurence Rémilla, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-concepteur et co-rédacteur en chef de la revue, l'excellente revue, si je peux me permettre, Schnock, qui remet au goût du jour la culture populaire de ces 50 dernières années. Alors, Claude François, j'imagine que c'est l'icône kitsch par excellence.
Oui, mais pas du tout une icône pour Schnock, sauf ce que vous venez de raconter. Parce que nous, on n'a pas été très touchés par sa musique. Oui. Mais de l'imaginer faire des concerts d'eau publique alors qu'il va magique. Engueuler ses musiciens s'ils ont une chaussure mal cirée, on se dit, mais quel génial malade, c'est un grand malade.
C'est un personnage.
Et d'ailleurs, sur le compte Twitter de la revue Schnock, vous avez publié ces notes secrètes tapées à la machine et ça a fait réagir parce qu'au travers de quelques phrases, on découvre ce comportement tyrannique de Claude François.
Parce qu'il laissait des traces, du coup.
À l'égard de son chauffeur. Il lui dit des horreurs.
Oui, oui. Alors, on l'avait retrouvé, ce chauffeur, donc Gérard Minchella, qui pendant toute sa carrière, quasiment, il avait été le secrétaire particulier de Carlos. Et puis, il s'est retroué chauffeur de Claude François
les dix derniers jours
de sa vie. Donc, il était avec lui les 10 derniers jours de sa vie. Et il nous racontait, mais ses notes de service, il fonctionnait à la note de service. Tout passait par ses notes de service. Elles n'étaient pas du tout secrètes. Toute sa journée, il a passé à dicter à sa secrétaire tout ce qu'il fallait faire. Donc, ce n'était pas que des manifestations de sa colère. C'était sa vision des entreprises Claude François, parce qu'il en avait au début des années 70. C'était un homme d'affaires avec
ça. Il possédait podiums, il possédait il avait plein de compagnies, en fait. Il avait plein de sociétés.
Oui, mais tout est relié quelque part à cette grande maladie de jalousie. Par exemple, Podium. Pourquoi lance-t-il Podium? Parce qu'au début des années 70, il estime que Salut les copains parle trop souvent de Johnny Hallyday.
Il n'a plus assez de lui.
Que fait-il? Il rachète Podium. Et comme il veut toujours être numéro un en tout, en quelques numéros, il dépasse Salut les copains.
Vous étiez quoi? Vous Salut les copains ou Podium?
Ben moi, j'étais pas né, Stéphane. Mais
Comment ça, vous n'étiez pas né?
Ben non, je n'étais pas né, Stéphane.
Ah ben moi, j'étais Podium.
Vous étiez Podium.
Ah non, j'étais Podium. Club j'étais podium, pas Salut les copains.
Ah non, vous étiez plus Clo-Clo que Johnny, alors?
Bah à l'époque, après,
ça a changé.
Faute de combattants, je suis devenu Johnny.
Ben, je crois qu'on était plutôt OK Salut et Rock'n'Folk, même très très jeune.
Mais c'est une forme de maniaquerie de faire des notes de service toute la journée.
Complètement,
Personne n'y pense.
Mais il faut imaginer qu'il s'est lancé au début, milieu des années 60. Il enchaînait les galas, et ça, Paul Lederman, son premier manager, nous l'a raconté. Et les galas à l'époque, c'était bas de gamme, c'était pas du tout quelque chose avec, comment dire, aucun de ses concurrents sur ces galas n'était dans le même perfectionnisme que lui. Donc il a développé, il était le seul en France à essayer d'égaler les chanteurs de la Motown, James Brown. On parle des amendes à ces musiciens. Qui faisait ça? C'est James Brown.
C'est vrai, j'ai entendu ça.
Donc c'était un grand classique en fait des big bands américains. Comment faire en sorte qu'une trentaine de musiciens jouent parfaitement? Eh ben on les met à l'amende. Et James Brown, il le faisait en direct. Il attendait pas la fin du concert. Pendant le concert, quand James Brown sortait ses mains comme ça et faisait le signe de 5, c'était pour dire à ses musiciens $5, $10.
C'est génial.
Mais il avait le rêve américain.
Et on peut dire donc que Claude François avait un peu les qualités de ses défauts.
Absolument, c'est un tout, Claude François.
On dit qu'il était colérique. On a dit, je sais peut-être moi qui l'ai dit, qu'il était sanguin. Mais est-ce qu'il était si sanguin que ça? Parce qu'il avait une colère froide aussi dans ses notes de service dont vous nous parliez. C'était pas sur le moment qu'il avait un coup de sang. C'était après, et même à froid, il arrivait à être très méchant quand même, ce Claude François.
Oui, tout le temps.
Il était méchant tout le temps.
Celle qui le raconte le mieux, c'est sa parolière Vlin Bugy, qui disait que malgré ses caprices, son caractère, sa jalousie maladive, tout son staff lui pardonnait tout, parce qu'il était aussi, il avait ses talents de séducteur, il avait son charisme, donc il lui passait tout. Et si on regarde toutes ses notes de service où il engueule ses salariés, Il les vire jamais. Donc, ils se sont habitués à ça. Je ne dis pas que c'était un jeu, mais en tout cas, tout le monde s'en accommodait fort bien.
Aujourd'hui, ça passerait mal. Ça serait du harcèlement.
Ah oui.
Il y a des prud'hommes, en plus, tout était écrit.
Non, mais c'est vrai qu'on a ce sentiment que tout le monde acceptait parce que c'était le prix à payer pour côtoyer la plus grande star de l'époque.
Absolument. Et certaines, ils les sortaient de nulle part. Ses secrétaires, souvent, c'était des fans qui dormaient devant son appartement. D'abord, il leur disait « réussissez vos études » et certaines qui ne réussissaient pas, il les embauchait. Donc, c'était des gens qui lui sont restés très, très fidèles. D'ailleurs, aujourd'hui encore, c'est difficile de faire dire du mal à quelqu'un qui a travaillé pour lui. Donc, il l'acceptait, ça faisait partie du tout Claude François.
Mais derrière ça, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y avait un mal-être chez Claude François? Peut-être le fait de ne pas être aimé, il était obsédé, il voulait qu'on l'aime, qu'on pense qu'à lui. Il paraît qu'il était allé jusqu'à faire mettre des micros dans chaque bureau du 122 boulevard Excelmans pour savoir ce que les employés pensaient de lui quand il n'était pas là.
Oui, donc ça, c'est un grand classique de l'espionnage industriel. Ouais. D'ailleurs...
Je mets des caméras dans le bureau de Mathieu Noël.
Voilà, les caméras sont encore pires. Mais même, pour revenir à des exemples américains, un artiste total comme Jerry Lewis faisait la même chose, non pas avec ses employés, mais avec ses relations d'affaires, c'est-à-dire lors de ses rendez-vous, il laissait une valise avec un micro et ensuite, il quittait la pièce et il revenait et il écoutait pour savoir quels étaient les arguments en face de lui. Donc tout ça, ce sont des choses qui existaient un peu dans le showbiz américain et Claude François les a remis à sa sauce.
En tout cas, merci Laurence Rémillard, co-rédacteur en chef de la revue trimestrielle Schnock, dans le dernier numéro consacré au sacré Saint-Esprit des années Canal+, qui vient de paraître.
Oui, on passe aux années 80, on vous l'a apporté aussi,
génial,
donc on l'a ici pour vous.
Voilà. On adore votre revue, honnêtement.
Merci beaucoup.
C'est fait avec beaucoup d'esprit et on apprend plein de choses.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Dans Historiquement vôtre, aujourd'hui, on fête les grands colériques de l'histoire. Après Henri VIII et Claude François, qui sont, heureusement pour nous, vu le mal qu'on vient d'en dire, décédés, Mathieu, c'est avec un certain courage que vous allez à présent vous attaquer à un grand colérique, toujours bien vivant, lui, Jean-Luc Mélenchon, pour un portrait, comme d'habitude, à 99% vrai.
Effectivement, Stéphane, courage ou inconscience, je ne sais pas quel est l'adjectif qui convient, mais je me permets de faire remarquer à l'auditeur qu'une fois de plus, au moment de la répartition des personnages, j'ai été victime de ce qu'il n'est pas excessif d'appeler un coup de pute, puisque qui va prendre un procès en diffamation à l'issue de cette émission, ce n'est pas mon Bernounet avec son gentil portrait de Clo-Clo, mais vraisemblablement votre malheureux Bibi qui va donc s'attaquer à celui dont il faut espérer, lui, qu'il n'est pas de marteau. Jean-Luc Mélenchon est en effet un homme politique. Aussi dans l'autre main. C'est un homme politique de gauche, souvent injustement caricaturé comme sanguin et paranoïaque. C'est évidemment largement exagéré.
Pourquoi tu me parles comme ça? Juge ma vie à vous défendre!
Non mais j'ai encore rien dit, Jean-Luc. Bon, sanguin peut-être un chouïa, mais parano, non. N'exagérons pas, si Mélenchon était parano, il aurait déjà appelé Europe 1 pour protester contre le fait que j'enquête sur lui.
Vous avez tous mes rendez-vous depuis 2 ans. Vous avez aspiré tous les fichiers du mouvement La France Insoumise et tous ceux du parti de gauche.
Bien, alors disons, pour ne pas risquer d'énerver, que Jean-Luc Mélenchon n'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Un tempérament qui s'est forgé dans le Jura, où il a grandi. La légende veut que c'est là, dans la profondeur des vallées jurassiennes, qu'en gueulant pour la première fois, il aurait fait, via le phénomène de l'écho, la rencontre de son idole, celui qui allait le marquer, l'influencer à tout jamais, lui-même. Oui, Stéphane, c'est toujours frappant de constater que quelqu'un ayant des vues politiques si différentes d'Alain Delon puisse être si proche de lui en termes d'autosatisfaction.
J'aimerais m'aimer autant.
Ah ben ça, c'est sûr, on aimerait tous s'aimer autant que Jean-Luc Mélenchon, ça doit donner une pêche incroyable au quotidien. Épaté par son propre charisme et franchement séduit aussi par ses propres arguments, le jeune Jean-Luc décide de faire une fleur à ses camarades en devenant un des meneurs du mouvement lycéen de sa ville en mai 68. Une révolution qui, je cite, sera son 1789.
Oh, ça ira.
Non, Régis, j'attends la présence de Stéphane. Ah voilà. Pendant que le docteur Jimmy Mohamed tente de réanimer Stéphane en le flagellant avec des fleurs de lys, continuons de suivre Méluche dans son irrésistible ascension. Étudiant doué, titulaire d'une maîtrise en philosophie, Jean-Luc, soyons fair play, n'épate pas que lui-même. Il est brillant, mais changeant. Par exemple, devinez quelle profession a exercé celui qui disait à un jeune journaliste il y a quelques années
« Votre sale corporation voyeuriste et vendeuse de papier ».
Quel était son métier à Jean-Luc ? Eh ben, il était journaliste en fait. Quel déconneur ce Jean-Luc,
qui a donc lui aussi appartenu à cette sale corporation voyeuriste de vendeurs de papier, peu ou prou d'ailleurs au même âge que ce pauvre garçon qui essayait de l'interviewer. Il avait créé un petit journal d'information simplement baptisé « À gauche ». Il avait même fondé Radio Nord Essonne et offert son premier emploi à un certain Arthur. Un garçon pour qui il a toujours conservé une certaine tendresse puisqu'il le surnomme
« Petite cervelle ».
C'est toujours mieux que « Petite
bite ».
Le surnom que m'a donné Stéphane.
Non.
Quant à ceux qui s'offusquent du niveau sonore souvent élevé de Jean-Luc Mélenchon, qui est à la pensée de gauche ce que la corne de brume est au football, attention, ça ne serait pas forcément volontaire. En effet, il serait atteint d'une légère surdité détectée dès l'enfance. Jean-Luc Mélenchon a même confié à Marc-Olivier Fogiel sur France 3 « Vous, vous voyez les gens arriver, vous les entendez, moi non ». Une info d'ordre privé, certes, mais qui peut, je crois, éclairer le personnage. J'espère qu'il n'en prendra pas ombrage.
Si vous voulez me parler de ça, vous allez trouver quelqu'un d'autre, d'accord ? Donc avec moi, vous parlez de politique et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde.
Ça, c'est mon Jean-Luc. Il est pas colérique, il est taquin. Mais on peut lui parler de tous les sujets, hein, même de ses liens avec le Venezuela, pas vrai, Jean-Luc ?
Non, c'est fini, terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique.
Mais j'y viens, Jean-Luc, j'y viens. Pas besoin d'être agressif, ça vous ressemble tellement peu.
C'est vous qui êtes agressif, vous en rendez même pas compte tellement votre tête est pourrie.
Alors, on est en train de le perdre, Stéphane. Vite, une bio flagorneuse qui met en valeur Jean-Luc sans pointer ses contradictions. Top, c'est parti. 1977, Jean-Luc adhère au Parti Socialiste et aussi à la franc-maçonnerie. Mais ça, il aime pas en parler, mince. Ah pardon, Jean-Luc, on passe. 1981, il est nommé premier secrétaire du bureau socialiste de François Mitterrand dans l'Essonne. 2000, il devient ministre délégué à l'enseignement professionnel. On dit qu'il fume alors près de 4 paquets de cigarettes par jour pour calmer ses nerfs. Non, j'y arriverai pas. En plus, la suite, vous la connaissez. Il va quitter le PS, estimant que finalement, c'est juste un ramassis de
petite cervelle.
Créer son propre parti, la France Insoumise, qui connaîtra un certain succès. Sa chaîne YouTube cartonne aussi. Il va malheureusement échouer à la présidentielle une nouvelle fois en 2017, après son premier échec de 2012, et malgré un régime à base de quinoa qui lui a permis de perdre 5 kilos. Je crois avoir été complet.
Ce que vous êtes en train de faire est une honte.
Je prends ça pour un oui. De toute façon, il y a un truc pour apaiser Jean-Luc, il faut le savoir. Une minute de Carla Bruni.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose.
Oui, il a déclaré adorer la voix de l'ex-première dame, ça le détend. On prend. Il a un jour confié aussi à Mireille Dumas adorer le tango. Vite, tango. Et voilà, une fois mis dans de bonnes dispositions avec un peu de Carla Bruni et un poil de tango, Jean-Luc Mélenchon redevient quelqu'un de très urbain. Hein Jean-Luc, sans aucune ?
J'en ai par-dessus la tête de genre de numéro. Votre tête est pourrie.
Merci Jean-Luc.
Merci Mathieu.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, l'émission qui fait le pont entre les époques et cherche à comprendre ce que le passé a à nous dire du présent. Et il a beaucoup de choses à nous dire, notamment en matière culinaire. Si comme moi, vous voulez épater vos convives ce soir au dîner et qu'ils s'exclament, comme Stéphane chez moi l'autre soir.
Oh my God, this quiche Lorraine is simply amazing.
Notre cordon bleu de l'histoire. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, vous aviez fait une quiche Lorraine donc.
Non, je l'avais décomplé une quiche Lorraine. Ça, c'est une autre technique,
c'est
je vous expliquerai.
Vrai, c'était super bon.
Il faut avoir un très bon four à micro-ondes, 900 watts et c'est parti.
Bon ben moi, on va pas décongeler. Hein. On
non,
va
vous
quand
allez
même
faire vraiment la
passer
la
en cuisine, vraiment. Et je vais vous parler d'une sauce qui est l'une des sauces majeures de la gastronomie française. On la trouve dans la bouche à la reine, on la trouve pour agrémenter un bon gratin, notamment, je pense aux fameuses endives, aux jambons, on peut en trouver dans le croque-monsieur, c'est la béchamel. Sauce indispensable. Et sauce que l'on doit, en tout cas son nom, à un homme plutôt illustre de l'histoire qui s'appelait Louis de Béchamel. Et Louis de Béchamel, figurez-vous, était maître d'hôtel de Louis XIV. Il était aussi, il vivait dans l'Oise, où il était marquis, le marquis du château de Noitel. Et il était particulièrement gastronome, il aimait cuisiner, il aimait manger. Et un jour, il se présente devant le roi, il était son maître d'hôtel, donc c'est dire qu'il avait un certain nombre de responsabilités concernant le repas, et il lui présente une sauce que le roi adore immédiatement. C'est une sauce qui est un peu crémeuse, qui est faite à l'époque avec du jus de viande, qui est lié. Le roi l'adore, il réclame qu'on serve cette sauce régulièrement lors de ses repas. Et petit à petit, cette sauce prend le nom de celui qui lui a présenté, béchamel. Alors, ça s'écrivait avec un i, béchamel.
Ah bon ?
Béchamel, et le i est tombé par terre un petit peu plus tard dans l'histoire. Mais ce que l'histoire ne dit pas, c'est que ce petit coquin de Louis de Béchamel, il l'aurait peut-être un peu piqué la recette.
Non !
Eh oui, parce que vous savez, se lever un matin et se dire « Tiens, je vais inventer une sauce, donc
ça
je vais... »
Ça vous arrive, ça, vous, le matin, oui, vous levez, vous dites « Je vais inventer une sauce. »
Oui, la sauce Pouls, voilà, vous connaissez bien. Non, en fait, il s'est inspiré d'une sauce qui existait déjà, qui était une sauce que faisait un certain cuisinier qui s'appelait Pierre de La Varenne, auteur du Cuisinier François, premier best-seller des livres de cuisine en 1651. Et il avait déjà une sauce qui était légèrement crémée, un tout petit peu différente, mais le fameux Louis de Béchamel, la béchamel, s'en est très largement inspiré. C'est un petit copieur.
Et qu'est-ce qu'il y a dans la béchamel pour ceux qui, comme moi, ne...
Alors, il faut savoir que la béchamel, c'est ce qu'on appelle une des quatre sauces mères de la cuisine française. C'est-à-dire qu'elle sert de base à plein d'autres sauces. La béchamel en elle-même, elle est très simple et je vais vous en donner la recette. Il vous faut tout simplement ce qu'on appelle un temps pour temps, c'est-à-dire la même quantité de beurre et de farine. Donc prenons 40 g de beurre, 40 g de farine, 1 demi-litre de lait, sel, poivre, noix de muscade. C'est tout ce qu'il faut pour faire de la béchamel. Il y a un petit tour de main, on va d'abord faire ce qu'on appelle un roux. Pour faire le roux, vous allez faire fondre le beurre, vous rajoutez la farine. Et là, attention, astuce, il faut laisser cuire pendant 4-5 minutes de manière à ce que la farine cuise bien. Parce qu'il n'y a rien de pire dans une béchamel qu'avoir le goût de la farine crue. C'est pas bon. Donc il faut que la farine ait le temps de torréfier. Ensuite, vous allez mouiller tranquillement avec le lait. La sauce va s'épaissir au fur et à mesure qu'elle va cuire et que vous allez la mélanger. Vous rajoutez un peu de sel, un peu de poivre et un peu de noix de muscade. Et là, vous avez votre béchamel. Et si vous rajoutez par exemple un peu de beurre d'écrevisse, ça devient une sauce Nantua. Si vous rajoutez un jaune d'œuf et du fromage, ça devient une Mornay. Si vous rajoutez un peu de fumée de poisson et des truffes, ça devient une Cardinale. Autant vous dire qu'il y a plein de déclinaisons après de cette sauce béchamel. Mais par exemple, ce soir, mon cher Mathieu, des blancs de volaille, une béchamel dans laquelle vous aurez rajouté quelques champignons de Paris coupés très finement et légèrement revenus avec quelques échalotes, et vous avez un accompagnement parfait.
Elle s'appelle comment cette version-là?
Elle s'appelle à la Mathieu Noël, par exemple.
La béchamel Mathieu Noël.
Est-ce que vous savez, à propos de volaille, il y avait le duc des Escars, ça ne s'invente pas, qui avait dit, quand je pense que ce petit blanc bec de béchamel a laissé son nom. Moi, ça fait des années que je sers du poulet au roi et je ne laisserai même pas mon nom.
Ah bah finalement, il a laissé son nom, mais différemment.
Les escars.
Oui, les escars, oui, pour les gens qui restent allongés trop longtemps. Merci beaucoup, ça. Olivier Poulx.
C'était formidable.
Vous nous avez mis en appétit avec les escars, lui, il a tout gâché.
C'est une histoire authentique que vous retrouverez dans un de mes livres.
Dans un de vos livres, bien sûr. Mais lequel? Quel numéro? Vous savez même pas dans quel numéro c'est.
Ils sont entrés dans l'histoire.
Ah oui.
Les noms communs, vous savez, les béchamel, comment monsieur... Je raconte l'histoire de ce monsieur de béchamel que Olivier Poulx a merveilleusement bien raconté.
Ou sandwich. Tiens, un sandwich, on pourrait s'en faire un
sandwich. Une autre fois.
En tout cas, on peut retrouver toutes les recettes d'Olivier Poulx sur le site d'Europe1.fr.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Le passé n'est pas qu'un récit figé, c'est également un miroir dans lequel on peut découvrir l'origine du monde qui nous entoure aujourd'hui, notamment quand on se penche sur l'origine des mots qu'on emploie sans cesse sans y penser. Or, ça tombe bien, nous avons la chance d'avoir un spécialiste en la personne de Stéphane Bern qui a trois passions, l'histoire, les collections de fèves...
Et bien sûr, l'alcool.
Et bien sûr, la langue française, Stéphane, on avait dit, souvenez-vous. Quelle expression vous nous racontez aujourd'hui?
Tomber des nus. Mathieu, quand est-ce que pour la dernière fois vous êtes tombé des nus? Vous savez, quand réfléchissez, vous me direz à la fin de cette chronique.
Oui, je vais réfléchir à la fin.
Tomber des nus, d'où vient cette formule? Alors, en tant que grande érotomane à hypersexualité débridée, je vous vois déjà, Mathieu, imaginer de nombreuses surprises tombant suite à un striptease de femmes nues lassivement conquises par votre charme de soudard libidineux. Redescendant sur terre, pas du tout. Déjà au XVIIe siècle, quand on tombait des nus, cela signifiait que l'on arrivait à l'improviste. Au fil des siècles, la définition a changé du tout au tout.
Mais dans tomber des nus, c'est quoi, nu?
Des nuages. Ah oui, je vous sens déçu, Mathieu. Oui. Un groupe de
c'est
nuages,
pas ce que
plus exactement. On dit parfois également tomber du ciel pour exprimer quelque chose d'inespéré qui arrive et qu'on n'a pas vu venir. Quand on tombe des nuages, des nus donc, on était très bien caché. La surprise était alors totale. On emploie plus du tout nu pour nuage, même si on utilise encore l'expression porté ou nu. Et puisons tous ensemble dans nos souvenirs scolaires les plus anciens, le dormeur Duval, je le cite de mémoire avec ma feuille, un jeune soldat bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
Ah oui, en fait, il
c'est
dort
beau
pas.
Comme du Rimbaud.
Oui, c'est ça qui est triste.
Alors, Mathieu, la dernière fois que vous êtes tombé des nus?
La dernière fois que je vous ai vu, nu. Justement, précisément, c'est là que je suis tombé des nus. Historiquement vôtre touche à sa fin. Encore un mirifique voyage avec vous, Stéphane, à la rencontre de personnages édifiants qui certes avaient mauvais caractère, mais qui étaient aussi attachants. Qui vous a le plus étonné, franchement, entre Henri VIII, Claude François ou Jean-Luc Mélenchon? politiquement, on sait que vous n'êtes pas très proche Jean-Luc Mélenchon. Détrompez-vous,
je l'aime beaucoup. C'est en plus, il aime beaucoup l'histoire. C'est un grand amateur d'histoire, donc on s'entend plutôt bien. Non, Claude François m'a fasciné quand même.
Hein.
Oui, c'est fascinant parce que.
On ne sait pas jusqu'où ça va aller, ces notes personnelles qu'on retrouve peu à peu.
Ouais, exactement. Non, on a appris plein de choses. Et puis, j'ai bien aimé ce lien entre ces trois personnages que des siècles séparent et qu'il
y en avait
même colère.
Il y a rarement des colériques, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. On pourra faire 10 émissions sur les colériques.
On y reviendra.
On y reviendra.
16h, 18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre se termine et franchement, c'est un peu triste.
C'est vrai Stéphane, c'est triste, mais il faut relativiser. On a parlé de Claude François aujourd'hui, ça reste moins triste que sa reprise en espagnol du téléphone pleure, parce que déjà qu'en français c'est badant, alors en espagnol...
Escucha, mamá está ahí, corre y dile mamá.
Voilà, c'est gratuit, j'avais juste envie que vous l'ayez dans la tête toute la journée.
Oh, c'est un beau cadeau que vous nous faites.
Ah oui, c'est bon.
Alors, j'ai un cadeau aussi pour vous. C'est ce qui nous attend demain. À l'occasion de la Fashion Week, on réunit trois fashion victimes de l'histoire qui n'auraient jamais pu se croiser au défilé. La reine Marie-Antoinette, l'empereur Mao Tse-tung, et sa célèbre veste, son col Mao.
Et Maître Gims.
Bah pourquoi Maître Gims?
Et parce que lui aussi était...
Ah bah oui, évidemment.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.